DW. Droits et libertés.
Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais un certain Donald Trump est désormais président des États-Unis. Alors on plaisante, mais en vérité, il est difficile de l'ignorer, étant donné l'importance géopolitique du pays, mais aussi l'hyper-médiatisation de la présidence Trump. Si certaines manières du locataire de la Maison-Blanche peuvent prêter à sourire, son style de gouvernement effraie aussi. Les crypto-monnaies, les droits de douane, le droit du sol, le retrait des États-Unis du Conseil des droits de l'homme, la suppression de l'aide au développement. Et ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres. Depuis sa prise de fonction en début d'année, Donald Trump a déjà émis davantage de décrets que son prédécesseur durant la première année de son mandat. Pourquoi Donald Trump recourt-il aux décrets et contourne-t-il le Parlement alors même qu'une majorité républicaine lui est acquise au Congrès? Comment se fait-il que l'opposition démocrate au Parlement ou la société civile ne proteste pas davantage contre ce mode de gouvernement très personnel de Donald Trump? Et enfin, qu'est-ce que cela signifie et laisse augurer pour la démocratie américaine? Autant de questions qu'Héloïse Gosselin, notre stagiaire, a posées à une chercheuse de l'université Versailles-Saint-Quentin en France, Cécile Coquet-Mokoko, est spécialiste des États-Unis. Sandrine Blanchard au micro, bonjour et bienvenue tout le monde.
Bonjour Madame Coquet-Mokoko.
Bonjour, je suis professeure de civilisation des États-Unis à l'université de Versailles-Saint-Quentin.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui s'il y a des limites au pouvoir du président Trump?
Alors, il devrait y en avoir sur papier, mais dans les faits, il n'y en a pas vraiment. Le système démocratique américain avait été conçu pour que ce soit les élus du Congrès, qui sont renouvelés tous les deux ans, entièrement pour ce qui est de la Chambre des représentants, qui représente proportionnellement la population de chacun des États qui composent l'Union. Et pour le Sénat, un tiers est renouvelé tous les deux ans. Donc, normalement, dans l'idéal démocratique des pères fondateurs de la nation américaine et de son système de république, on devait avoir une gouvernance au plus près des besoins, des souhaits et aussi des frustrations de la population, justement par ces renouvellements réguliers de l'instance législative qui est censée être le pouvoir dominant du gouvernement fédéral. Et là, c'est une évolution qui a commencé vraiment avec la Première Guerre mondiale, en fait. On a vu le pouvoir exécutif prendre de plus en plus de place, de plus en plus d'importance, au point de constituer un peu un État dans l'État. Mais normalement, ça n'est pas un pouvoir qui doit gouverner sans aucun contre-pouvoir.
Concrètement, que prévoit la Constitution américaine pour encadrer justement ces décrets ?
Alors, les décrets, normalement, ils ne doivent pas être des actes de politique fondamentale. Normalement, des présidents américains peuvent émettre ou édicter des décrets pour réguler le comportement, si vous voulez, des agences fédérales qui sont sous leur commandement, par exemple l'armée. L'un des premiers décrets vraiment importants qui avait été pris, encore une fois, au cours du XXe siècle, concernait la déségrégation des forces armées. Donc ça s'inscrivait vraiment dans la montée en puissance des revendications de la minorité noire américaine, qui trouvait assez anormal, et on peut comprendre ça quand même, d'avoir combattu pour le pays pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et de se faire après traiter plus bactère une fois rentré au pays. Donc on a eu le président Franklin Roosevelt, qui, soit dit en passant, a eu 5 mandats, et ça a été restreint justement grâce au Congrès qui a proposé un amendement de la Constitution pour qu'aucun président américain ne puisse gouverner pour plus de 2 mandats. Ça, c'est en train d'être mis en cause en ce moment par un projet de loi qui a été lancé par un représentant du Tennessee.
DW.
Je poursuis sur les ordres de déségrégation du XXe siècle. On avait le président Truman aussi, qui, en 1947, si je me rappelle bien, a lui aussi émis des décrets pour commencer la déségrégation des agences fédérales et mettre en place une commission de réflexion sur la déségrégation. Mais la raison pour laquelle ces deux présidents avaient agi de cette manière-là au lieu de passer par le Congrès, c'était précisément parce que dans leur propre parti, les démocrates, ceux qui représentaient les États du Sud, où seuls les Blancs avaient le droit de voter, dans les années 1940, 1950 et même jusqu'au milieu des années 1960, les élus démocrates au Congrès étaient à fond pour la ségrégation. Donc, normalement, un président américain, il a le droit d'utiliser des décrets uniquement pour gérer les agences fédérales, qui sont en train d'être démantelées actuellement par l'équipe d'Elon Musk, et l'armée.
D'accord.
Donc, normalement, il n'y a pas besoin de tout ça. Il passe par le Congrès, normalement. Le Congrès a normalement un droit de regard, mais c'est juste qu'il choisit de pas l'exercer. On a vu Trump faire un discours au Congrès qui avait tout d'un meeting politique. C'est pas normal.
Là, aujourd'hui, qu'en est-il de la solidité de ces institutions américaines? Parce que là, ouais. Dans quelle mesure on est capable de dire non à Donald Trump?
C'est vraiment la question. Les limites, il les franchit tous les jours, en fait. Dès le premier jour, lorsqu'il met en cause le droit du sol, par exemple, il fait quelque chose dont il sait pertinemment que c'est anticonstitutionnel. Ou si lui, il le sait pas parce qu'il n'a pas pris le temps de lire la Constitution des États-Unis, il doit avoir peut-être 2-3 conseillers qui ont pris cette peine. Puisque quand même, le président est censé défendre et protéger la Constitution de son pays. Au Congrès, personne ne s'élève contre lui parce que il a gagné les élections, il leur a fait gagner les élections, ils lui sont reconnaissants, et tout simplement, ils sont terrorisés à l'idée d'avoir une voix qui s'élève contre lui, puisqu'on a vu le sort des quelques-uns ou quelques-unes, dans le cas de Liz Cheney ou Adam Kinzinger, qui ont été exclus du parti, comme autant des purges staliniennes, ou ce qu'on peut voir du côté de Xi Jinping en Chine. Alors, il y a fort à parier que beaucoup d'élus républicains au Congrès n'en pensent pas moins, mais ils n'ont aucun courage politique.
Comment on explique la non-réaction, entre guillemets, du camp démocrate?
Alors effectivement, c'est un objet de frustration assez intense du côté d'une bonne moitié de l'électorat américain. On a encore un comportement qui est un petit peu similaire à ce qu'on voit du côté des parlementaires européens. C'est-à-dire qu'on essaie de garder sa dignité face aux outrances du président.
Du coup, vous parliez un peu de la réaction des Européens, par exemple, mais aux États-Unis actuellement, est-ce qu'il existe une réaction particulière de la société civile, ou autrement dit, est-ce qu'actuellement, il existe une forme de contre-pouvoir?
Comme c'est un pays où on aime énormément régler les choses par le droit et par la justice, la réaction la plus immédiate, et celle qui d'ailleurs était anticipée très certainement par Trump et son équipe, c'est la multiplication des procès, qu'il s'agisse des fonctionnaires qui sont en train de se faire limoger ou contraindre à la démission de manière parfaitement arbitraire sans qu'ils aient commis la moindre faute professionnelle. Il y a des procès aussi de la part des États qui s'insurgent contre la remise en cause du droit du sol qui est garanti par le 14e amendement à la Constitution. Cette question revient à demander... Qui est réellement américain, qui a le droit de vote, qui peut être et doit être protégé par la Constitution. Dans l'esprit des institutions américaines, y compris l'esprit des parlementaires à l'époque républicains, donc anti-esclavagistes, qui avaient mis en place le 14e amendement, il s'agissait de bien rappeler à tous que les États-Unis étaient une terre d'hommes libres et que quand on naissait sur cette terre-là, on était un citoyen avec des droits pleins et entiers parce qu'on participait à ce corps politique qui devait être un modèle de démocratie pour le reste du monde.
Mmh. En fait, ce qu'on comprend, c'est qu'actuellement, la politique de Trump qui consiste à faire ces sortes de meetings politiques, comme vous l'évoquiez au ouais. Congrès, ou qui gouverne au moyen de décrets, concrètement, aujourd'hui, pour la démocratie américaine, si vous deviez résumer la situation, qu'est-ce que vous diriez?
Sans être américaine, je me sens extrêmement préoccupée et attristée parce que je vois actuellement. Je suis attristée aussi en tant que chercheuse parce que la recherche aux États-Unis est en train de souffrir d'une attaque en règle avec une privation de financement. Il y a vraiment une attaque des institutions américaines. Il reste à voir comment la Cour suprême va se déterminer face aux attaques les plus graves à l'encontre des institutions. Mais il va falloir très certainement une mobilisation au niveau de la société et si possible, au niveau des élus du pouvoir législatif, parce que sinon, moi, je crains très franchement qu'il y ait une dérive vers un système de plus en plus liberticide. Ce qu'on a coutume de nommer une démocratie illibérale. Donc, il reste à espérer que les réalités économiques, la hausse des prix, que ne va pas manquer d'induire sa guerre tarifaire, vont déclencher un tel mécontentement parmi les Américains qu'ils réclameront un changement de gouvernance. Là, il a été démocratiquement élu, donc normalement, ils en ont pour 4 ans. The first kick I took was when I hit the ground. Head up like a dog that's been beat too much, till you spend half your life just to cover it up. I was born in the USA, baby. I was born in the USA. I was born in the USA, baby. I was born.
Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci encore à Cécile Coquet-Mococo et à Héloïse Gosselin pour cet entretien. Si vous souhaitez réagir, réécouter ou partager cette émission, rendez-vous sur notre site internet dw.com/français ou sur les réseaux sociaux ou encore sur la plateforme de podcast de votre choix. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien. I'm 10 years